Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et Michel Poitvin, notre chroniqueur économie. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Michel, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, Michel, une manchette qui retient l'attention, on en parle depuis hier, c'est que la grève à Poste Canada s'est terminée. Enfin, diront certains, certaines.
Ben oui, le 30 mai, samedi dernier, les travailleurs ont voté une forte majorité pour accepter les offres patronales. Il y a 55 000 employés à Poste Canada qui sont divisés en deux unités à cause de la nature des tâches. Donc, il y a une unité urbaine, donc ce sont les facteurs et les factrices qui agissent dans les villes, puis il y a une unité rurale et suburbaine, donc dans les banlieues. Donc, chacune des unités là, urbaines à 86% puis rurales à 89% en faveur des offres patronales. Quelles sont ces offres? C'est une entente de 5 ans, mais rétroactive en 2024. Là, le conflit avait commencé en 2024 suite à l'échéance de la dernière convention collective. Donc, ce qu'on sait, les deux premières années, des augmentations de salaire sont de 6,5 % pour l'année 1 et 3 % pour l'année 2. Puis ça, ça correspond en fait à 2024 et 2025. Donc, ça va être la rétroactivité qui va être versée aux employés. Puis on n'a pas d'information, il doit y avoir des clauses rattachées à l'inflation pour les années jusqu'en 2029. Ça peut sembler beaucoup, ces augmentations-là. Puis effectivement, je suis allé voir le taux d'inflation. En 2024, il était 2,4 % puis les employés obtiennent 6,5. Puis en 2025, 2,1 % l'inflation au Canada, puis ils ont obtenu 3 %. Donc, on comprend leur enthousiasme à accepter ces offres. Je pense que c'était des bonnes offres pour les employés. Donc, ils sont évidemment contents, mais c'est pas juste eux qui sont contents. Là. D'une part, ça réduit l'incertitude là, face au service postal. Puis peut-être que nous, on s'en sert moins, mais par exemple, il y a beaucoup de PME à travers le Canada, qui sont très contents de la fin du conflit. Les PME utilisent beaucoup la poste pour envoyer du matériel, soit du matériel promotionnel, là, les fameux dans les publicsacs, et envoyer évidemment des colis à leurs clients un peu partout au pays. Donc,
mais ça a été un long conflit, hein, Michel. Moi, je pensais que c'était réglé. C'est bizarre, là.
Ben oui, parce qu'on entendait moins parler, effectivement. À un moment donné, à la fin 2025, ça avait fait les manchettes. Il y avait eu des grèves, mais là, on entendait moins parler. C'est deux ans que ça dure, là. La convention collective était venue à échéance en janvier 24. Puis le gros de l'enjeu, il y avait deux enjeux principaux, les salaires puis les changements structurels entourant le service de Poste Canada. Puis ça, on avait déjà parlé, je pense, dans une chronique à l'époque. Donc, la société d'État fait des pertes. Là. Poste Canada, par exemple, là, pour le premier trimestre de 26, des pertes de 205 millions de dollars. L'an dernier, c'était 1,57 milliards pour toute l'année. Donc, ces pertes-là importantes nous suggèrent le service, est-ce qu'il est encore pertinent ou est-ce qu'on l'assure de la bonne façon? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et donc, ça, c'était un enjeu majeur. Puis, ce qu'on lit dans les journaux, là, on est relativement silencieux sur s'il y a eu des discussions ou des règlements sur les changements structurels. On a de l'information sur les salaires, mais pas sur ce second enjeu. Il y a une baisse, on avait parlé, il y a une baisse importante du courrier à domicile. Et ce que Poste Canada veut faire, c'est réduire la fréquence de livraison au lieu de passer à tous les jours, peut-être passer deux fois par semaine, implanter plus de boîtes communautaires, là, ces fameuses boîtes où il faut aller chercher notre courrier plutôt que l'avoir
à notre porte.
Et réduire le nombre de bureaux de poste également. Là. Donc ça a un impact évidemment sur l'emploi. Alors, c'était une des raisons pourquoi le syndicat a réagi. Puis c'est un enjeu majeur parce que ces pertes-là, c'est qui éponge ces pertes-là? Bien, c'est vous et moi avec nos impôts, c'est le gouvernement canadien. Puis avec l'état des finances publiques, est-ce qu'on peut encore se permettre là, de mettre autant d'argent dans le service postal? Je pense qu'en partie, il va y avoir certainement qu'il y a des changements qui vont venir. En partie, on va probablement procéder par attrition parce que le Canada s'attend à perdre jusqu'à 30 000 employés d'ici 2030 sur les 55 000. Puis ça, c'est juste en raison ou au cours de la prochaine décennie, pardon, pas 2030, peut-être 2035. Ça serait suite à des départs à la retraite ou des départs volontaires. Alors ça, si on peut faire ça par attrition, c'est sûr que ça crée moins de conflits avec les syndicats, mais en même temps, les syndicats aiment ça maintenir une certaine masse critique là, de leur du nombre d'employés. Alors, il faudra voir là, comment ça va se passer dans les prochaines années, mais c'est clair qu'on a besoin d'une restructuration parce que ça coûte énormément cher. Puis, on s'en sert. Une des raisons pourquoi on fait des pertes, c'est que les gens s'en servent de moins en moins. Là.
Bon, alors, 85 %, c'est ce que je lis dans Le Devoir, c'est la proportion des quelques 55 000 employés de Poste Canada qui ont donné le feu vert à une nouvelle convention collective.
Oui. Je ne sais pas s'ils ont tous voté. Je n'ai pas trouvé le taux de participation, mais je suis sûr qu'il y en a une grande proportion qui sont prononcés puis qui ont voté et parmi ceux-là fortement en faveur, là, au-delà de 85
oui.
en faveur.
Là. Environ 60 du conseil exécutif du syndicat a approuvé la convention collective bon, proposée.
C'est une bonne nouvelle parce que je pense, si je me souviens bien, à l'automne, les employés avaient accepté quelque chose, mais le conseil syndical l'avait rejeté, ou le contraire. Là. Je pense que le conseil syndical avait accepté, puis les employés avaient voté contre. Alors, si les deux s'alignent, c'est une bonne nouvelle, le conflit devrait se terminer.
Oui, on aime ça, les bonnes nouvelles. Et on va suivre la situation quand même, parce que rien n'est gagné. Et puis, vous vouliez nous parler, Michel, il reste quelques minutes, peut-être, du prix de l'essence au Costco et aussi des salles de cinéma là, qui au Québec. Là, il y a une baisse d'achalandage.
Peut-être rapidement Costco, puis le cinéma, on pourra en reparler là, la semaine prochaine.
Je vais vous dire ça. Ça va dépendre des minutes qui nous restent. On a à peu près 3-4 minutes.
OK, ben pour le Costco, on se demande, il y avait une chronique qui nous demandait, on se demandait pourquoi l'essence chez Costco est si ben, le prix de l'essence est si faible. Des fois, ça peut aller jusqu'à 20 sous en dessous du prix du marché. Puis ce qui arrive, c'est que le modèle d'affaires de Costco est basé sur, ou toute la rentabilité de Costco est basée sur les cartes de membres.
Oui, c'est ça, il faut être membre pour en profiter. Il
faut être membre. Alors, Costco, ils se soucient moins de faire de l'argent, par exemple, sur l'essence. Ils peuvent vraiment vendre au prix coûtant, ou même avec une légère perte, puis ça n'affectera pas leur rentabilité. Pourquoi? Parce qu'avec leur carte de membre, ils vont chercher énormément de profit, puis si l'essence est faible, ils vont attirer plus de membres. Alors, le modèle d'affaires de Costco est tel que pour des biens comme l'essence, ben, ils peuvent avoir des prix très, très faibles, puis ils récupèrent les 6 pertes qu'il y a l'essence, par exemple, par les abonnements supplémentaires qui vont aller chercher.
Oui, oui. Finalement, c'est pas un cadeau qu'ils font aux consommateurs.
Ben, c'est ça. Et Costco... ce modèle d'affaires intéressant, c'est ça. Ils font de l'argent. J'avais un ami qui travaillait chez Costco et puis c'est ce qu'il me disait. Il disait, en gros, nous, nos profits, c'est les cartes de membres. Là, parce que quand on va au Costco, tous les items dans le magasin sont pas chers. Ils ont peu de marge là-dessus. Par contre, ils se rattrapent avec les cartes de membres.
Et l'achalandage en baisse dans les cinémas, c'est une triste nouvelle, mais en même temps, c'est pas très surprenant. Mais il faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de films québécois qui ont été à l'affiche, je crois, cette année.
Oui, je pense que j'avais lu l'article vite. La baisse de l'achalandage, c'est 15 % par rapport à 2025, puis 39 % par rapport à 2019. Je pense que les habitudes des gens, hein, probablement on est tous un peu coupables. Là, on écoute plus excusez l'anglicisme en streaming là ou
les plateformes.
Sur les plateformes, ça peut être les plateformes québécoises comme Illico ou TouTV, ou bien Netflix, Amazon, etc. On sort moins pour aller au cinéma, à moins que ça soit un gros film attendu. Puis je pense que les films québécois, je disais, représentent 9 % de l'assistance à peu près. Puis en 2025... Je pense que c'est menteuse d'Émile Gaudreau, je disais, qui a réussi à dépasser les chiffres de 2024 en termes d'achalandage.
Oui, c'est le seul qui a réussi à dépasser les chiffres de 2024 pendant la même période.
Exactement. Par contre, il y a d'autres films, les gros blockbusters américains, là, un film Minecraft, et puis je pense qu'il y en avait Avatar aussi. Là. Quand il y a des événements comme ça, les gens veulent voir ces films-là sur
écran. Sur grand écran.
Sinon, on reste là, tranquillement.
Ouais. Oh,
malheureusement, je suis d'accord avec vous, là, mais on est tous un peu coupables. Je vois, moi, le premier, j'adorais aller au cinéma, puis on dirait que j'y vais moins souvent. Là.
Bon, alors, ça serait peut-être une bonne habitude à reprendre parce que ça, on veut pas que les salles de cinéma ferment. Ça serait vraiment tragique.
Il y en a que, c'est ça, le nombre de salles de cinéma, évidemment, a baissé. Par exemple, on pense à Guzzo, là, les cinémas Guzzo qui avaient fermé leurs portes. Certains ont été rouverts sur une autre bannière, là, Ciné Star, Star Z. Mais le nombre de cinémas est en baisse, ça reflète un peu ce que les consommateurs...
Oui, oui. Et quand on va voir un film et qu'on se retrouve 3-4 dans la salle, là, c'est un peu triste aussi. Bien, merci, Michel!
C'est ça. Par contre... Ah, bien, OK.
Oui, allez-y.
Bien, rapidement, je veux dire, on peut... je suis d'accord avec vous sur le cinéma, mais ce qu'il y a de bon avec les plateformes de streaming, c'est que ça ouvre un large auditoire. Puis ça permet, certaines vont financer des productions québécoises. Là, puis je pense à la série là, de la quincaillerie joyale.
Oui, la vitrerie joyale de Martin Matt.
Pas quincaillerie.
Qui est sur Prime Vidéo.
Exactement, mais selon Martin Matt, là, j'avais vu une entrevue avec lui, il disait qu'il y avait eu des moyens très importants là, pour faire sa série d'Amazon Prime. Donc ça, c'est comme le pendant positif de ça, c'est que ça ouvre à... ça augmente l'auditoire, ça apporte plus de ressources.
Oui, oui, on pourra en discuter.
Pour faire certains produits chez nous. Donc c'est pas tout noir. Là,
non, il y en a qui trouvent ça dommage que ça soit sur Prime Vidéo, mais on pourra pas s'étendre sur le sujet pour aujourd'hui. Non. Merci.
Je pense qu'on avait un peu parlé peut-être. Là,
mais oui, mais il faudrait dire que Vitrerie Joyale vaut le détour et 100 fois plutôt qu'une. Merci, à la prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.